Good Morning Business, face à le chiffre.
Face à le chiffre, c'est Jean-Marie Daniel. Aujourd'hui, on va parler productivité. Le télétravail améliore légèrement la productivité. C'est pas un sentiment de DRH, ce sont des chiffres de l'INSEE. Alors, le gain est pas énorme, entre 0,7 et 1 point de pourcentage de croissance entre 2019 et 2022. Mais ça bat en brèche ceux qui pensent, comme vous, Emmanuel Le Chypre, que le télétravail, c'est pour ceux qui foutent rien.
Non, mais alors, on va calmer un peu les ardeurs comme vous de ceux qui, dès qu'il y a quelques petits gains de productivité, quelques dixièmes de points par-ci par-là, s'affolent comme si c'était l'alpha et l'oméga de l'avenir des entreprises françaises. Donc, il faut rappeler que les bénéfices de ce télétravail, tels que calculés par l'INSEE, ils sont quand même modestes. Vous avez eu la lucidité de l'avouer. Ils sont aussi très inégaux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce ne sont en rien, à long terme, des réponses, finalement, aux défis des entreprises françaises. Et puis, on va rappeler que l'INSEE mesure surtout tout ce qui est production immédiate, gain de temps, efficacité individuelle, réduction des coûts, mais qu'en revanche, l'INSEE ne mesure pas ce qui est vraiment le plus fondamental, qui est l'innovation, la créativité, la transmission, la formation informelle, la cohésion, et tout ce qui fait qu'une entreprise est forte sur le long terme, et tout ce qui est mise à mal par le télétravail. Donc, pour les entreprises, pas grand-chose, plutôt de la fragilisation. Deux, on mettra l'accent quand même sur le fait très inégalitaire du télétravail. C'est que le télétravail, ça accentue les fractures sociales. D'un côté, vous avez quand même des cadres qui travaillent bien au chaud, en chaussons, et chez eux. Et de l'autre, vous avez finalement des premières lignes, comme on disait du temps du Covid, hein, qui mettent le bleu de chauffe. C'est les ouvriers, les infirmières, les chauffeurs, les commerçants, etc. Donc, vous avez une partie des Français qui gagnent du temps, du confort, du pouvoir d'achat, du loisir, et puis de l'autre, finalement, ceux qui triment, qui ont des grands temps de transport, des horaires fixes et une présence obligatoire. Je ne reviens pas sur les effets négatifs sur les centres-villes, sur l'immobilier, sur le management plus bureaucratique, c'est le paradoxe du télétravail. Bref, le télétravail, c'est une commodité, ça n'est certainement pas une solution d'avenir.
C'est vous le moderne de l'affaire, Jean-Marc ?
Oui, je pense que le télétravail, c'est l'avenir et que tout ce que vient de dire Emmanuel est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que concrètement, il faut lire ce que dit l'INSEE d'ailleurs. Les 0,7%, c'est sur une augmentation de 10% du volume d'heures télétravaillées. C'est-à-dire que les 0,7% de productivité correspondent à une certaine quantité de télétravail. Si on augmente encore le télétravail, on peut considérer qu'il y aura encore plus de gains de productivité. Ce que met en avant l'INSEE, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on donne plus d'autonomie aux salariés. Et donc, à partir du moment où ils sont en capacité de mieux s'organiser, ils sont capables de répondre justement à ce management que qualifie Emmanuel d'autoritaire. Le management autoritaire, c'est le salariat avec une présence physique des gens sur leur lieu de travail. Si vous êtes en télétravail, vous vous organisez comme vous voulez. Et la deuxième chose que met en avant l'INSEE, c'est le fait que tout un tas de contraintes liées à la présence en un lieu physique disparaissent, notamment le temps de trajet, toute une perte de temps dans la vie quotidienne liée à la nécessité de se rendre sur un lieu précis. Ce qui est intéressant dans ce que dit aussi l'INSEE, c'est qu'il y a quand même une évolution, il y a une autre note qui vient de sortir sur l'évolution du travail non salarié. Et ce que met en avant l'INSEE, c'est qu'on va véritablement vers cette société dont je parle régulièrement,
d'auto-entrepreneuriat,
de client-fournisseur, qui va se substituer à la société employeur-employé. Et il y a 20 ans, il y avait 2 millions d'emplois non salariés, maintenant on est à peu près 4 millions, on va atteindre les 4 millions cette année. Et ce, malgré une baisse continue du nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire, pendant très longtemps, l'emploi salarié, c'était fondamentalement des agriculteurs. Maintenant, la population agricole continue à décliner. Et donc, il y a une réponse naturelle de l'organisation du travail à la disparition de l'atelier. C'est ce que disait Alfred Sauvy. J'ai retrouvé là aussi un texte d'Alfred Sauvy à la fin de sa vie où il disait le grand déversement, le changement du travail, on a fait partir les gens des champs pour les mettre dans des ateliers, on leur a fait quitter les ateliers pour les mettre dans des bureaux. Et maintenant, on va les renvoyer de leurs bureaux vers leur pavillon, de nouveau, à côté des champs. Il disait, il y a une sorte de boucle qui est en train de se mettre en place où les gens qui ont quitté la campagne vont revenir à la campagne parce qu'ils pourront continuer à travailler depuis leur pavillon, disait-il. Je pense qu'effectivement, l'organisation du travail va être beaucoup plus autonome, beaucoup mieux centrée sur l'individualité. qui ne correspond pas à ce qu'était le travail industriel. Le travail industriel nécessitait effectivement un lieu précis, parce qu'il y avait un capital énorme à mobiliser, et parce qu'il fallait qu'au travers de ce lieu précis, on puisse assimiler la présence dans ce lieu à une production.
Là, et, et sur l'aspect inégalité, vous répondez quoi ?
Sur l'aspect inégalité, progressivement, effectivement, il y a toujours eu une inégalité. On peut considérer qu'il y a une inégalité entre... Je parlais des agriculteurs. L'agriculteur qui est obligé de se lever le matin pour traire les vaches
Vous nous vendez une société de précarité et de retour en arrière. Il faut rappeler que le travail chez soi, c'est un retour en arrière historique. Il n'y a que depuis 2 siècles que finalement les gens ont quitté leur domicile pour aller sur des lieux de travail. Effectivement, et ça a été quand même l'âge d'or du travail. Vous nous vendez, là encore, la réduction du salariat et une sorte d'auto-entrepreneuriat comme étant la panacée. Mais la réalité, c'est que vous vous payez vous-même vos minima sociaux. Donc, ça n'est certainement pas un progrès social. Vous sous-estimez le coût de ce qu'on a appelé aussi, l'envers du télétravail, c'est-à-dire le fait de revenir au travail, d'organiser des réunions, de vouloir donner des coworking, etc., qui ne fonctionnent absolument pas. Et tout est une question d'organisation. Bah, attendez, quand vous avez fait revenir les gens au bureau sans leur attribuer de bureau, vous savez bien à quel point ça a créé des problèmes, que chacun voulait quand même son petit bureau. Oui. Je vois lever les sourcils là. Les sourcils. Et puis la réalité, c'est que c'est un problème d'organisation.
Le coworking, on peut en discuter. Bon, c'est un autre modèle.
Que le télétravail, ça marche dans les boîtes qui étaient déjà organisées pour, comme l'IA va le faire. Hein, l'IA, je vous rappelle quand même l'étude de PwC cette semaine.
Oui.
80% des gains pour 20% des entreprises qui la mettent en place. Eh ben, il y aura ceux qui réussissent et
dernier mot, Jean-Marc, on a fini.
Oui, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, je pense que Marx se retourne dans sa tombe quand il entend des gens prétendre que le salariat c'est du progrès social. Quand on regarde ce qu'a été le salariat, quand on sait que le salariat c'est quand même une organisation hiérarchisée, vous êtes en situation de dépendance et en situation d'autorité subie par rapport à un patron, et de dire écoutez, ça a été un progrès colossal, je trouve ça absolument invraisemblable.
Voilà. Relisez Marc, Emmanuel Le Chypre, on se revoit demain.